Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Ludovic Auger. Si la mémoire de la colonisation occupe une place importante dans le débat public, rares sont les chercheurs qui se sont penchés sur l'économie des colonies. L'historien Jacques Marseille fait figure d'exception, lui qui s'est demandé si la métropole s'était vraiment enrichie grâce à ses possessions d'Afrique et d'Asie. C'est pourquoi nous examinons cette semaine l'économie de l'Indochine, puis du Congo belge et enfin de l'Algérie française. Mais d'abord, c'est l'actualité sociale qui retient notre attention. Les syndicats ont appelé à manifester jeudi dernier pour dénoncer c'est la multiplication des plans sociaux. Dernière annonce en date, la fermeture de l'usine de Bridgestone à Béthune. En cette rentrée tendue, que reste-t-il du dialogue social en France? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'avenir du syndicalisme français en compagnie du politiste Jean-Marie Pernaut, chercheur associé à l'Institut de Recherche Économique et Sociale, de l'avocate Marie-Laure Dufresne-Castet qui défend entre autres la CGT et de la juriste Stéphanie Matteudy, directrice de la Société de Conseil Art du Dialogue Social. En fin d'émission, vous retrouverez la Bibliothèque de l'Écho. Dans son dernier ouvrage, l'économiste Joël Toledano nous invite à reprendre le pouvoir sur les géants du numérique.
Plutôt que d'annoncer des licenciements tout de suite, parce que c'est ça aujourd'hui, on licencie d'abord et on réfléchit après. Faut remettre les choses à l'endroit, parce que c'est toujours les salariés qui trinquent.
C'est pour ça que je le redis, la question de la conditionnalité aux aides publiques, elle est centrale, a fortiori dans un moment où les aides publiques sont massives aux entreprises. Pour maintenir l'emploi, elles sont nécessaires, mais il faut les conditionner, sinon on assistera, de toute façon on le voit en ce moment, hein. On parle de Bridgestone, mais il y a Auchan, qui pour le coup là est une entreprise qui a fonctionné pendant la période du confinement. On a eu le cas de Nokia, on a vu Smart. Mes délégués dans les départements nous alertent sur le fait qu'ils voient se multiplier les sollicitations de salariés isolés, de très petites entreprises, qui sont confrontés à des injonctions de leur part de l'employeur de démissionner ou des ruptures de contrat qui, à l'évidence, ne sont pas qualifiées de licenciement économique, mais qui en sont en réalité. Donc on voit bien qu'il y a des petites boîtes qui souffrent. Et puis, évidemment, en bout de chaîne, ce sont les salariés. Et ça, on ne le voit pas, ça ne fait pas la une, évidemment.
Stéphanie Matteudy, Marie-Laure Dufresne-Castet et Jean-Marie Pernaut, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On vient d'entendre le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, suivi du secrétaire général de FO, Yves Verrier. Alors, plus d'une centaine de rassemblements et manifestations ont été organisés en France jeudi dernier à l'appel de la CGT de Solidaires et de la FSU. Une journée de mobilisation qui visait donc à dénoncer les plans sociaux qui se multiplient, Jean-Marie Pernaut.
Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de profiter de l'antenne pour rendre un hommage à Marcel Trilla, qui est disparu en fin de semaine dernière, qui, je pense, a pleinement sa place dans une émission comme celle-ci, et sur un thème comme celui-là, lui qui a couvert de nombreux conflits sociaux. C'était un documentariste, un homme de télévision, un homme de radio, très connu dans ce milieu, qui a marqué les 40 dernières années, même d'ailleurs avant, depuis 68, depuis son fameux aussi documentaire sur les chantiers navals de Saint-Nazaire en 57. C'était un homme que j'ai eu la chance de fréquenter ces dernières années et qui était par ailleurs un type adorable. Je ne sais pas trop comment faire mieux que reprendre le titre que l'humanité a inscrit pour honorer sa mémoire, un honnête homme, enfin un homme des...
Un humaniste.
Voilà, un humaniste, pardon, je cherchais le mot. Voilà, je souhaitais lui rendre, lui dédier un peu cette émission.
Merci.
Alors,
pour cet hommage.
Cette émission, bon, évidemment, elle tombe dans une actualité qui est assez riche, hein, vous l'avez rappelé, les principaux éléments, plus toutes les petites entreprises dont on ne parle pas, parce que là, on a évidemment la partie émergée de l'iceberg, mais il y a aussi toutes ces petites boîtes, les sous-traitants des grandes entreprises qu'on a citées, mais même ces PME qui ont fermé fermer, qui ne rouvriront pas. Je crois qu'on a un chapelet de situations sociales tout à fait considérables sur lequel le mouvement syndical, certes, n'a pas beaucoup prise, mais pas plus les politiques, on le voit, dans les témoignages qu'on a entendus, les responsables des régions principalement concernées. On a le sentiment d'une machine économique où la logique du profit reprend ses droits, on repart comme avant, les entreprises... Bridgestone, on voit bien que c'est pas arrivé d'un coup. Auchan, on peut pas dire qu'ils aient souffert de la crise, etc. Donc on retrouve les travers d'un système économique dans lequel l'illusion que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi a repris le dessus. Et on continue comme avant, avec les mêmes effets qu'avant.
394 plans de sauvegarde de l'emploi depuis mars, qui représentent 57 000 emplois supprimés. C'est trois fois plus que sur la même période en 2019. Marie-Laure Dufresne, un premier mot sur cette journée de mobilisation de jeudi.
Oui, moi je voudrais dire que 394 plans sociaux depuis mars, mais bien avant, si vous voulez, ces choses-là étaient en route. Et je ne crois pas que ce soit les travers d'un système, je crois que c'est l'essence même du système que de fonctionner ainsi. Je vais vous donner un exemple, celui de Renault. Moi, je suis avocat de la CGT Renault. Chez Renault, on nous dit qu'aujourd'hui, à cause de la crise sanitaire, et cette crise sanitaire, on l'entend, elle a bon dos, qu'à cause de la crise sanitaire, on va être contraint de fermer des sites, etc. En réalité, quand vous connaissez bien les affaires de Renault, vous suivez ce qui est présenté aux institutions représentatives du personnel, eh bien, vous comprenez que ce qui se fait aujourd'hui, c'est la suite de ce qui avait été prévu. C'est-à-dire qu'on est dans un fonctionnement normal du système capitaliste. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom.
Et cela alors même qu'on parle d'entreprises qui ont bénéficié d'un certain nombre d'aides. C'est ce que les syndicats dénoncent. C'est l'absence de contrepartie pour les entreprises dans le plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été dévoilé par le gouvernement.
Mais ces aides, elles ne sont pas nouvelles. Le crédit d'impôt, tout ce qui a été donné aux entreprises depuis des années, prétendument devait amener les entreprises, et je crois qu'on reviendra sur non seulement les aides financières, mais également tout ce qu'on a appelé ces assouplissements, cette flexibilisation, maître mot, dans notre droit du travail, tout cela qui a été donné pour favoriser l'emploi, enfin, personne ne peut être dupe. Je crois qu'il faudrait beaucoup de malhonnêteté pour prétendre que tout cela a une raison d'être autre que d'accroître le profit.
Qu'est-ce que vous pensez de cette dénonciation, Stéphanie Matteudy, selon laquelle le plan de relance du gouvernement favoriserait trop les entreprises?
Mais comme le disait Marie-Laure Castex, le plus important, en fait, c'est que c'est une continuité. Et le plan de relance rajoute, réinjecte quelque part, finalement, 100 milliards. On avait 20 milliards par an pour le CICE qui est donné aux entreprises, alors bien évidemment sur dossier, mais quelque part sans contrepartie. Et le plan de relance, c'est 100 milliards, ça repart exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions. Et on essaye de tenter des contreparties qui sont à la fois extrêmement faibles. Mais le problème est le plus important, surtout qu'il faut souligner, c'est que on a une difficulté de gouvernance de l'entreprise qui permettrait d'avoir des éléments de contrôle de toutes ces subventions qui sont versées au sein de ces entreprises. Donc je pense que le mécanisme de réflexion sur la gouvernance de l'entreprise et d'autre part sur la négociation collective qui a extrêmement évolué ces 10 dernières années et il me semble un point essentiel pour tenter de colmater les brèches des difficultés d'emploi que les entreprises vont connaître.
On va voir si la crise pourrait être l'occasion pour les syndicats de repenser leur rôle et plus largement effectivement peut-être d'inventer de nouvelles formes de dialogue social. Mais d'abord, que retenir de cette journée de mobilisation de jeudi dernier, Jean-Marie Pernaud? D'abord, peut-être que les syndicats français sont toujours aussi divisés.
Ah, ça, la division, oui, elle ne date pas de là. Elle aussi, elle s'inscrit dans une assez longue continuité. Je pense que les initiateurs de cette journée, qui étaient une partie du mouvement syndical, ne pensaient pas qu'ils auraient un succès de fréquentation, à l'image de ce qui a été quand même, ne l'oublions pas, là aussi il y a une continuité, celle de l'avant-Covid, la crise liée aux réformes de la retraite, au projet de réforme des retraites, avait largement mobilisé, mais pas seulement, il y a aussi la crise des Gilets jaunes, il y a eu des mouvements dans la santé qui étaient déjà très importants. Donc,
on ne sait pas jusqu'à quel point la faible mobilisation justement est liée au Covid ou non.
Voilà, la faible mobilisation, elle est évidence a des liens, elle s'inscrit pas dans n'importe quel temps, on est quand même dans un moment où les réflexes de protection jouent et sans doute que c'est un frein, mais il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi le retour à ce type de sociabilité que représente la manifestation, c'était un coup pour démarrer, hein, je pense dans l'esprit des initiateurs, qui d'ailleurs n'avaient pas lancé un mot d'ordre de grève généralisée, c'était une journée d'action comme la CGT en fait souvent, et sans doute dans l'esprit de ces organisateurs, comme point de départ de quelque chose, ou reprendre la main d'une certaine manière, dans une période où effectivement il y a une avalanche d'annonces, que ce soit côté gouvernemental ou des entreprises, et où la voix du syndicalisme est faible et dispersée. Et on pourrait même dire faible parce que dispersée.
Une première journée pour marquer le coup, Marie-Laure Dufresne-Castet, ce qui explique qu'à l'heure actuelle, on entend de la part des syndicats beaucoup de dénonciations, mais pas encore de véritables propositions.
Alors, moi, je crois qu'il faudrait, peut-être y viendrons-nous plus largement dans la seconde partie de votre émission, mais je crois qu'il faudrait revenir sur, précisément, moi, reprendre les fondamentaux. Et je ne pense pas qu'on puisse demander comme ça, le titre de l'émission, je crois, où vont les syndicats. Moi, je crois qu'il faut se demander, qu'est-ce qu'un syndicat? À quoi ça sert? Quel type de syndicalisme voulons-nous? Quels sont les fondements? Et je pense que les fondements sont des fondements politiques. Et le problème du syndicalisme aujourd'hui, moi je pense effectivement, ils sont, comme le disait Madame Matteudy, tout de suite, il faut colmater. Non, je ne pense pas qu'on puisse se contenter de colmater. On voit bien qu'il y a un système qu'on pourrait qualifier de darwinisme social. Que les plus forts gagnent. C'est le système. Est-ce que les syndicats sont là pour coller à ces valeurs-là, ou est-ce que les syndicats sont là pour contribuer à une transformation sociale, une véritable transformation sociale?
Eh bien, prenons par exemple peut-être une étude de cas, un dossier qui est évidemment très important dans l'actualité aujourd'hui. Le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone a annoncé le 16 septembre son intention de fermer en 2021 le site de Béthune dans le Pas-de-Calais où travaillent 863 salariés. Le gouvernement parle de trahison. Bruno Le Maire a dénoncé une décision révoltante. Ce qui est en cause notamment, pour commencer, Stéphanie Matteudy, c'est la brutalité de l'annonce.
Ah oui, c'est sûr qu'il y a quand même bon nombre de salariés qui ont entendu finalement que l'entreprise allait fermer en écoutant la radio, donc ça fait toujours mal. Alors c'est le processus effectivement qui veut que les décisions appartiennent d'abord entre les directions et les organisations syndicales, et l'information n'a pas le temps de courir suffisamment loin jusqu'aux salariés, qu'elle est déjà dans les médias et qu'elle est déjà relatée. Donc c'est déjà une première observation. C'est un petit peu le jeu des relations sociales, mais ce qui compte ici et ce qui est important, c'est les suites à donner à cette action. Ça fait longtemps que Bridgestone connaît des difficultés. J'ai accompagné moi cette entreprise pendant quelques années en essayant de motiver le personnel encadrant, en les formant à la réglementation et au droit du travail.
Et justement, qu'est-ce que vous retenez, Stéphanie Matteudy, de l'état du dialogue social dans cette entreprise?
C'était entre 2009 et 2012 et c'était déjà extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que la ligne hiérarchique avait un peu perdu de son assise et de ce qu'on dit, son pouvoir social, c'est-à-dire qu'elle avait du mal à faire appliquer la réglementation à ses équipes. Il y avait un courant syndical qui était fort, qui était très marqué, qui était très important, qui faisait le job. Envie de dire. Et à partir du moment où le schéma et l'équilibre de la régulation sociale est en déséquilibre à la faveur des représentants du personnel et des organisations syndicales, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que finalement l'information circule que dans certains circuits, essentiellement entre les directions et les organisations syndicales qui sont amenées régulièrement à négocier. Et ensuite, entre la ligne hiérarchique et la direction, ou la ligne hiérarchique et les salariés, ben, y a une espèce de vide qui se fait, où on les oublie. Et à partir du moment où on les oublie, quelque part, y a un risque d'absentéisme de la part des collaborateurs qui ne savent plus finalement forcément à quel sein se vouer. Et il y a un désintérêt pour l'entreprise de la part de ses managers qui peut après venir sur les salariés. Donc c'était très compliqué. Et ils savaient, hein, il y a 10 ans déjà, que l'entreprise allait fermer.
Depuis l'annonce, la direction de l'usine et les représentants du personnel ont signé un accord de méthode. C'était vendredi. Accord qui donne 5 mois à la discussion. Et les ministres de l'Industrie et du Travail, Agnès Pannier-Runacher et Elisabeth Borne, sont attendus sur place cet après-midi. Jean-Marie Pernaud, le dossier Bridgestone, ça va être un test pour l'exécutif ?
Oh, je crois que le scénario à venir est écrit. On va essayer de gagner du temps, on va étirer, essayer que l'entreprise parte le plus proprement possible avec plein de guillemets. Mais le sort est joué. On peut s'étonner d'ailleurs de l'étonnement des politiques. On a affaire là quand même à des géants économiques, des multinationales pour lesquelles c'est même plus les salariés qui sont des variables d'ajustement, ce sont les établissements eux-mêmes. Or, on sait bien que dans la stratégie de Bridgestone, ça a été rappelé ces temps-ci, et vous venez de le faire, ça fait plus de 10 ans que ceux qui sont un peu au fait du dossier savent très bien quelle est la stratégie de l'entreprise. Elle a sous-investi, elle a pas filé vers le pneu intelligent, etc. Elle a laissé des productions de premier niveau dont on sait très bien que la concurrence organisée par ces mêmes entreprises d'ailleurs dans les pays d'Europe de l'Est rend non compétitif le site français. Et après on vous dit comme ça. Alors ils l'ont fait avec un cynisme parfait. Bon, d'accord.
Mais donc quand le gouvernement annonce qu'ils vont se battre, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, qui a proposé par exemple de mettre en place des fabrications de pneus plus importants. Vous n'y croyez pas du tout, à Marie-Laure Dufresne-Castet?
Non, pas du tout. J'ai des expériences très précises dans ce domaine. Quand même, je voudrais revenir un instant sur ce que disait Madame Matteudy. Je ne pense pas que le sort de Bridgestone ait été scellé par la démotivation des salariés. On sait qu'on assiste à une financiarisation de l'économie à outrance, et ce sont des choix stratégiques des groupes qui font, comme le disait tout de suite Jean-Marie, ces choix font qu'on va décider de fermer et de la manière la plus brutale qui soit, un établissement ou un autre. Moi, j'ai vécu Continental, j'ai vécu PSA, et l'indignation des politiques, ils changent les politiques, enfin, ils changent si peu, mais ils se succèdent, disons, et ils s'indignent toujours, et on aboutit toujours à la même chose. Et quand Jean-Marie disait tout de suite, le scénario, il est écrit à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une annonce, brutale ou non, au demeurant, c'est toujours d'une brutalité extrême et d'une violence extrême pour les salariés, et puis une indignation, et ensuite les choses se font comme elles doivent se faire dans le système qui est en place.
Mais alors on peut se demander si dans ce dossier, Marie-Laure Dufresne-Castet, les syndicats jouent vraiment leur rôle, et on revient à notre question aujourd'hui, que peuvent-ils encore dans un dossier comme celui de Bridgestone ?
On revient à ce à quoi doivent servir ou peuvent servir les syndicats. On parlait tout à l'heure de négociation. La négociation, je crois qu'il faut revenir un peu en arrière et sur la naissance de la négociation. La négociation, elle est née du conflit. Les premiers accords collectifs de travail, c'était des accords de fin de conflit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les salariés avaient gagné, l'employeur était contraint de signer un accord. Aujourd'hui, le mouvement est inversé et c'est ce qu'on appelle le dialogue social. Et moi, le dialogue social, je vais vous dire très honnêtement, c'est pas ma tasse de thé.
On commence par signer et ensuite on proteste.
On commence, écoutez, les employeurs ont choisi de mettre en place certaines mesures. Ils disent aux syndicats, voilà ce qu'on va mettre en place. Et on leur laisse à la marge sur les modalités. Toute petite latitude, mais en réalité, c'est vous signez ou rien. Et ce sont des diktats de l'employeur auxquels adhèrent ou n'adhèrent pas les syndicats. Aux syndicats de savoir s'ils sont là pour accompagner les décisions de l'employeur, c'est-à-dire à la marge, mettre en place quelques petites différences qui étaient prévues par les employeurs. Moi, je participe à des négociations, je vois comment cela se passe. ou si les syndicats représentent une force qui est en face de l'employeur, contraignent l'employeur à négocier. On négocie avec celui qui a les moyens de s'opposer à vous, pas avec celui qui ne les a pas.
Alors c'est intéressant, effectivement, on va revenir sur les points que vous soulevez, Marie-Laure Dufresne-Castet, mais pour simplement finir sur le dossier Bridgestone, l'État a annoncé qu'il excluait d'entrer au capital de l'entreprise. Est-ce que ça, c'est une décision qu'on peut regretter, Stéphanie Matteudi?
Il y a une difficulté aussi dans l'histoire du syndicalisme en France, c'est que l'État veut systématiquement prendre part, dès qu'il y a une difficulté au sein d'une entreprise, finalement veut se mêler de quelque part de quelque chose qui a lieu normalement entre eux, effectivement la direction et les syndicats sur des sujets de négociation. Et donc en tentant de sauver politiquement, j'ai envie de dire, l'entreprise, il offre cette solution.
Mais quand il ne le fait pas, on lui reproche lourdement. Je crois que c'est Lionel Jospin qui avait dit « l'État ne peut pas tout » et ça lui a été gravement reproché.
Oui, ça peut, mais on voit bien là, enfin en tout cas sur ce conflit-là, qu'on a l'impression que malheureusement, les jeux sont faits depuis bien longtemps et que trouver un accord, trouver un repreneur, en tout cas suivre un peu ce que dit l'accord de méthode pendant 5 mois, sachant que l'année dernière, il y avait déjà un accord de maintien dans l'emploi qui avait été finalement qui a fait l'objet d'un référendum qui n'a pas été souhaité par les salariés. Donc, des tentatives, il y en a eu aussi dans les années précédentes. On voit bien que là, finalement, ils ont a priori tout essayé. L'État arrive, c'est le choix du politique. Moi, je trouve que l'État se positionne plus en gérant qu'en garant, et ça peut questionner.
C'est peut-être moins à l'État d'intervenir qu'aux élus locaux dans un dossier comme celui-ci, Jean-Marie Pernaud, parce qu'évidemment, la fermeture de cette usine, ça risque d'avoir un très fort impact sur l'économie locale.
Ah, ça c'est sûr, les autorités locales, les pouvoirs publics locaux, c'est sur eux que ça va retomber. La gestion, 850 emplois en moins dans la région de Béthune, ça a eu des répercussions considérables. Hein. Il y a aussi les sous-traitants, mais chez les commerçants, les activités de service, etc. On sait très bien que quand une industrie ferme, c'est plein d'emplois en aval qui tombent. Et donc, c'est effectivement les pouvoirs publics locaux qui vont avoir à gérer comme ils le pourront cette difficulté-là. Après, ça fait du bruit, etc. Mais je pense que globalement, la question, c'est quel type de régulation on peut imaginer pour ces grandes entreprises je pense que même les dirigeants de Bridgestone, je ne sais pas s'ils seraient situés sur la carte Béthune, sur une carte de France. Bon, tout ça est géré d'extrêmement loin. C'est tellement abstrait, les 860 emplois de Béthune pour la direction générale qui est, je crois, au Japon. Bon, je pense qu'on tombe sur des éléments durs de la mondialisation. Les régulations des entreprises multinationales sont extrêmement infimes. L'OCDE s'était penché là-dessus à deux reprises dans l'histoire. En 2000, ils ont réactualisé une charte de bonne conduite des entreprises multinationales. Bon, visiblement, tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. La France n'est pas le seul pays concerné par ce genre d'affaires. Mmh. Et ce n'est pas les premières qu'on vit. On pourrait parler aussi, d'ailleurs, de General Electric qui a racheté un bout d'Alstom avec des engagements, toujours, de maintenir l'emploi et qui, 2 ans après, recommence à baisser la charge.
Donc, qui annonce tout ça 753 suppressions de postes, effectivement.
Alors après, l'État, là, il s'agit de beaucoup parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de s'intéresser à la chose. Les pouvoirs publics locaux s'arrachent les cheveux. Et puis les salariés, ils vont aller pointer à Pôle emploi, quoi. Et puis voilà, je pense que la solution à ça, et c'est pas très nouveau, parce que même lorsque là, l'État avait une grande... ça me refait penser à mon ami Tria, mais quand on a fermé les aciéries, là, les syndicats étaient puissants, ils sont opposés, des journées villes mortes dans toute la Lorraine, etc. Et rien n'y a fait. Ils ont obtenu à cette époque des plans sociaux, etc. C'est pas exactement leur objectif, mais ils ont obtenu des contreparties parce que là, l'État, effectivement, était engagé et donc les a ramenés chez eux sans les laisser mourir sur le bord de la route.
Alors, il y a l'impuissance des syndicats, en effet, et puis il y a ce que vous évoquiez, Marie-Laure Dufresne-Castet, le détricotage du droit du travail. Il y a plusieurs choses qui sont aujourd'hui dénoncées, notamment l'ordonnance gouvernementale du 20 mai qui rend possible le rachat d'une entreprise par un actionnaire fonctionnaire qu'il a lui-même placé en redressement judiciaire. Alors expliquez-nous quels étaient les objectifs de cette ordonnance et quels problèmes elle pose, selon vous, Marie-Laure Dufresne-Castet.
Alors, moi, je pense que c'est un scandale, hein, parce que c'est une primo malfrat, véritablement, on peut le dire comme cela. Alors, les objectifs de cette ordonnance, c'était le même objectif que cet objectif qui est poursuivi depuis longtemps, et qui est celui de favoriser quand même le profit. Et enfin, nos politiques sont les zélés serviteurs de ce point de vue. Je crois qu'il faut revenir pour cela aux années 80, parce que ce à quoi faisait allusion Jean-Marie, à tout ce qui s'est passé à partir des années 80, la désindustrialisation à laquelle on a assisté. Dans les années 80, l'entreprise a été mise au centre. La valeur, c'était l'entreprise. Ça s'est transformé ensuite en compétitivité. Et au nom de l'entreprise, au nom de parce qu'il fallait faire fructifier l'entreprise, eh bien, on a sans cesse fait reculer les protections, sans cesse. Ce qu'on a appelé notre état providence a été mis en pièces, littéralement.
Jusqu'à aujourd'hui, le fait que aujourd'hui les employeurs peuvent décider unilatéralement de modifier les dates de congé, ça c'est aussi une mesure exceptionnelle liée à la crise épidémique que vous dénoncez, Marie-Laure Dufresne-Castet.
Oui, j'ai même écrit un article là-dessus, c'est vrai. Je crois que bien avant cela, même bien avant cette crise dite sanitaire, qui est en réalité une crise sociale et économique, hein, puisque l'origine en est aussi de fonctionnement social, mais bien avant cela, quand vous songez aux accords de performance collective, dont certains se réjouissent de l'existence, ces accords de performance collective, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des accords qui permettent de diminuer le salaire des salariés, qui permettent d'augmenter le temps de travail sans contrepartie. Juste un mot sur les contreparties, parce que je crois que c'est extrêmement important. Quand on parlait tout à l'heure des accords collectifs de maintien de l'emploi, mais on se moque du monde. On se moque du monde parce que l'emploi n'a jamais été maintenu. Je vous donnerai l'exemple de Continental, où en 2007, ils ont signé un accord de maintien de l'emploi, et en 2009, ils ont fermé Continental Clairois, et ont mis 1120 personnes sur le carreau.
Stéphanie Matteudy, est-ce que vous seriez aussi sévère que Marie-Laure Dufresne-Castet sur ce détricotage du droit du travail jusqu'à aujourd'hui, dans ce contexte qui est quand même un contexte très particulier de la crise sanitaire ?
Alors, encore une fois, ça fait plus de 10 ans en fait qu'on détricote le droit du travail avec les... au moins plus de 10 ans à partir de...
80.
Oui, mais... vraiment depuis, à mon sens en tout cas, depuis 2008 et depuis les dernières lois et surtout les ordonnances Macron qui finissent finalement ce détricotage sur la partie, en fait, sur la partie comment je peux, sous le couvert de « nous allons sauvegarder l'emploi », finalement, je ne suis pas sûre qu'on sauvegarde l'emploi parce que on ouvre le champ des outils juridiques, des mécanismes juridiques sous le couvert de négociations, puis après, depuis 10 ans, on détricote la négociation collective également, malheureusement, en élargissant le champ des acteurs et le champ du possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme outil juridique ? On peut avoir recours au plan de sauvegarde de l'emploi. Déjà, tout est dit dans le nom. On appelle ça d'ailleurs communément plan social. C'est presque plus juste. Mais alors là, les employeurs vont vous dire, bon, alors attention quand même, c'est sérieux, parce qu'il faut un motif économique, et en plus, vous allez avoir l'administration qui, quelque part, donne un peu son veto, surveille. Bon, très bien. Nouveau mécanisme, il y a quelques années, et on en a parlé, c'est l'accord de performance collective, c'est le plus récent, c'est l'accord de maintien dans l'emploi, où effectivement, on va détricoter. Que l'on soit dans une petite entreprise, quasiment avec juste un référendum, ou dans les grandes entreprises avec un procédé un peu plus sérieux, mais là, on n'a plus besoin de motifs économiques, et on n'a plus besoin, finalement, l'administration n'est plus là pour vérifier. On va signer ce que l'on appelle un accord majoritaire, et on pourra faire un accord de maintien dans l'emploi qui va effectivement permettre de jouer sur les mobilités, le temps de travail et les rémunérations.
Et alors, ce sont ces outils qui permettent...
La performance collective, maintenant, qui est employée. Et le petit dernier, c'est l'APLD, l'activité partielle de longue durée, qui est un nouveau mécanisme
qui est bien précisé dans le plan de relance, auquel on pourra en plus faire jouer les trois précédents dont je viens de vous parler et le recours à l'activité partielle. Donc c'est vraiment des mécanismes qui ne sont pas vraiment en faveur des salariés, mais plus en faveur des employeurs.
Ce sont ces mécanismes qui permettent aujourd'hui à Auchan d'annoncer la suppression de près de 1500 postes au sein du groupe, alors même, Jean-Marie Pernaut, que la grande distribution a moins souffert que d'autres secteurs du confinement.
Ah ben, on pourrait même dire qu'elle a eu la part belle pendant le confinement. C'était quand même les seules activités qui n'ont jamais fermé, vers lesquelles on nous poussait même de manière assez systématique.
Oui, Auchan a amélioré ses résultats malgré la pandémie et malgré la baisse de fréquentation des hypermarchés, parce qu'il y a eu le e-commerce.
Le CICE, dont qui chiffre par million, je crois que c'était 1,8 million par an pour Auchan ces dernières années, leur ont servi à remplacer les caissières par des caisses non pas automatiques, mais des caisses où le client fait le travail. Donc on ne voit pas très bien, effectivement, ce qui pourrait justifier la situation d'Auchan. Mais au lieu d'égrener ces situations difficiles, qui hélas sont le quotidien depuis bien longtemps, et puis d'observer tous les mécanismes un peu de replâtrage qu'on attend de mettre en place, mais qui, vous l'avez dit, Stéphanie, servent plus d'ailleurs comme mode de gestion pour les employeurs que pour offrir des garanties pour les travailleurs. On pourrait peut-être s'interroger sur le fait de savoir, en attendant le grand moment où le capitalisme ne sera plus de notre environnement national et international, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même quelque part d'introduire des mécanismes qui pourraient faire que les salariés ne soient pas in fine et en permanence des variables d'ajustement.
Alors, et alors pour cela, il faut quoi ? Il faut que les syndicats se réarment idéologiquement ?
Oui, mais on peut déjà pensons un peu en termes d'institutions, l'entreprise. Après tout, en Allemagne, la codétermination évite un certain nombre de choses. Un employeur qui a signé un contrat pour 2 ans, certes, on est dans une logique capitaliste, mais les rapports de force, ça compte. La codétermination fait partie du rapport de force historique des syndicats en Allemagne.
Donc et
du
fait,
coup, l'employeur
faut expliquer
ne
peut-être,
peut pas faire absolument n'importe quoi.
Il faut peut-être expliquer, Jean-Marie Pernaut, la codétermination, c'est le fait qu'il y a plus de salariés dans les conseils d'administration.
Qui ont une taille suffisante, il y a plusieurs échelons, eh bien, les représentants des salariés sont présents au conseil d'administration, mais non pas une unité, 2 unités, 3 unités, mais à une proportion significative et dans les très grandes entreprises, à parité avec les détenteurs du capital. Alors, bon, ça suppose que les syndicats acceptent une certaine logique du capitalisme, c'est l'évidence. Et souvent, les syndicats français, d'ailleurs, pour des raisons politiques, ont regardé ça de très haut. Mais malgré tout, dans les périodes difficiles, ça offre un certain nombre de garanties. Et au fond, il y a des travaux aujourd'hui qui réfléchissent à ça. Il y a eu autour de la dernière loi une interrogation sur le statut des salariés, des représentants des salariés au conseil d'administration ou l'objet social dans la qualification de l'entreprise.
Mais la loi Pacte a fait une très timide avancée vers la codétermination.
Comme toujours, on va vers des très petites avancées où on nous dit c'est mieux que rien, mais en réalité c'est plutôt pire que tout parce que ça permet d'enterrer le problème. Et si on avait à côté d'un conseil d'administration des apporteurs de capitaux, des conseils du travail avec les représentants de ceux qui engagent aussi, pas seulement de leur capital, mais leur vie, leur travail, etc., et qui fassent contrepoids au sein de l'entreprise, peut-être que on pourrait déplacer un peu ce pouvoir sans partage des grandes multinationales. Les syndicats ont des propositions un peu là-dessus. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les travailler ensemble, à les dire ensemble, à trouver des compromis entre eux, ce qui fait que ce genre de voix est disséminée et ils n'arrivent pas à peser dans les débats comme cela.
Quelle proposition des syndicats, Marie-Laure Dufresne-Castel, pour essayer d'influer davantage sur le dialogue social et de protéger davantage l'emploi?
Alors, moi, je ne pense pas que ce soit des questions techniques. Voilà. Véritablement, je pense que ce sont des questions politiques.
Ouais.
Et ce sont des questions de choix de société. Pas plus que Jean-Marie, je crois. Je ne crois au grand soir. Croire au grand soir, c'est un peu comme croire au paradis. Et c'est se permettre de ne rien faire en attendant.
Mais donc pour vous, la détermination, par exemple, c'est une bonne idée ?
Non, je ne pense pas. Mais en revanche, je pense que nous avons, dans notre culture politique et dans la culture de nos syndicats, nous avons des éléments. Des éléments qui nous permettent de trouver des solutions qui seraient autres. Mais ces solutions qui seraient autres, elles ne vont pas se faire comme ça pour des raisons purement techniques ou pour pour arranger les salariés. Ceux qui détiennent, parce que tout ce qui est mis en place sert le profit. Ceux qui profitent, ils ne vont pas se laisser enlever leur profit comme cela.
Mais d'où l'idée de mieux partager le pouvoir au sein des conseils d'administration, c'est la co-détermination.
Non, c'est pas cette idée. La véritable question, c'est une question de rapport de force. Et l'essence du syndicalisme, elle est dans le rapport de force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez suffisamment de force, suffisamment de mobilisation, eh bien, vous pouvez imposer des solutions qui seront autres.
Mais comment avoir de la force le nombre d'adhérents ne cesse de diminuer depuis 1972?
Oui, parce qu'il y a une acculturation politique qui est considérable. Et effectivement, quand on passe son temps à regarder de la télé-réalité ou je ne sais où, s'intéresser à des choses de cet ordre, on a des moyens critiques qui sont moindres. De la même manière, si vous voulez, lorsque dans les écoles, on donne... je pense qu'il y a une harmonie dans la situation politique. Et lorsque, dans l'éducation, on donne aux enfants, puis aux étudiants, des moyens critiques moindres, eh bien, ils auront moins de moyens de se mobiliser d'un point de vue politique.
Sur la baisse des adhésions, je voudrais vous faire entendre Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui s'exprimait sur le fait que la crise du Covid avait encore accéléré la tendance à la baisse.
Sur les adhésions, on était, vous le savez, fin 2019 et début 2020, sur une bonne dynamique. Elle était insuffisante, on n'est jamais satisfait totalement là-dessus, on était sur une bonne dynamique, on avait augmenté sur une année, c'est trop peu, mais notre nombre d'adhérents de plus de 4000, et on sentait que ça partait. On va pas se raconter l'histoire, la période de confinement, c'est une espèce de vide sidéral. On a eu des adhésions en ligne, beaucoup, quand même, parce qu'il y a eu ce service apporté, mais enfin, le principal apport d'adhésion pour une organisation syndicale comme la nôtre, ce sont des militants et des militantes qui vont rencontrer des salariés et qui leur proposent adhésion. La période de confinement, bizarrement, a mis en exergue, par les sollicitations qu'on a reçues, et ça ne cesse pas beaucoup depuis, une attente à l'égard du syndicalisme d'utilité, de réponses concrètes.
La crise du Covid a-t-elle nui aux syndicats, Stéphanie Matteudy, et accéléré une tendance préexistante?
Alors la tendance, elle est effectivement préexistante depuis bien longtemps, et notamment depuis 1984, où effectivement on diminue quasiment par deux le taux de syndicalisation pour arriver à un taux de syndicalisation qui rapproche des 8%, 5% dans le secteur privé, 15% dans la fonction publique. C'est extrêmement bas. En même temps, la France n'a jamais été un pays à fort taux de syndicalisation. On était plutôt toujours autour des 25%, ce qui est très élevé, mais à côté de maintenant, c'est 8%, c'est vrai qu'on a bien diminué. Alors, qu'est-ce qui compte? On est plutôt en France dans un syndicalisme de revendication, moins dans un syndicalisme de service. À partir du moment où on n'a pas forcément de service à offrir, qu'est-ce qui va faire que je sois motivée à adhérer à un syndicat? Si ce n'est ma vocation, si ce n'est l'envie d'adhérer, si ce n'est les liens de solidarité que je vais y trouver, si ce n'est du conseil en droit du travail. Un tas de choses finalement qui parlent et en même temps sur le terrain est déjà chassé par l'employeur, c'est jamais bon. Déjà, la discrimination syndicale existe toujours, donc il faut continuer à se battre contre les discriminations syndicales.
Mais cette volonté de revenir vers le terrain, ça va dans le bon sens. La CFDT qui a annoncé lancer 500 points contact partout en France du 22 au 24 septembre pour, je cite, rebooster le lien avec les salariés.
Mais il faut clairement booster parce qu'effectivement, c'est pas un syndicat. On part sur des revendications, sur un syndicalisme de revendications. Les revendications, elles se trouvent où? Elles se trouvent sur le terrain. Donc la proximité est un moindre mot du syndicalisme en France. Il faut nécessairement de la proximité. Et on a éloigné avec le CSE ce lien de proximité avec le Conseil social et économique, les nouvelles instances représentatives sous les ordonnances Macron. On l'a un petit peu éloigné ce lien. Le Covid n'est pas là pour rassurer les troupes non plus, parce qu'il y a énormément, on l'a vu, il y a eu du télétravail qui soit subi. En tout cas, ça a été moins pratique pour aller sur le terrain. Donc cette crise, elle est importante. Mais
et peut-être, pardon de vous couper, mais ce qui a aussi nuit au syndicat, c'est la réforme de la représentativité sous Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Pernaut, qui a peut-être renforcé la concurrence entre les syndicats et contribué à les affaiblir.
Ça n'a pas eu un effet dans le bon sens, hein, il va de soi, mais ça accompagne une tendance qui est là, la fragmentation, la tendance à la fragmentation, les résultats électoraux des différents tours de représentativité a accru cette fragmentation.
Mais, c'est une loi qui obligeait à faire plus de 10% aux élections professionnelles pour être représentatif, la loi du 20 août 2008.
C'est cela, oui, et 8% au niveau des branches et au niveau interprofessionnel, et du coup on a de plus en plus de centrales réputées représentatives, et en plus les résultats électoraux montrent une montée des petits, une stagnation, voire un recul des grands, entre guillemets, etc. Donc, on est dans un schéma là, de fragmentation qui n'est pas terminé. Mais je crois que pour les syndicats, le problème, il est moins dans des recettes de services, parce qu'en France, il faut bien enregistrer qu'il y a une séparation historique entre les services publics, qui sont pour tout le monde assurés par l'État, l'indemnisation du chômage, qui est l'objet d'une institution séparée du syndicalisme, et même la mutualité, qui est organiquement séparée du mouvement syndical, alors que dans d'autres pays, ces institutions du social sont liées au syndicalisme, ce qui évidemment favorise la proximité aux organisations syndicales. Donc ça, on le sait, c'est structurel dans la vie des syndicats français. Cela dit, l'interrogation, c'est pas tellement pourquoi ils sont si faibles aujourd'hui, c'est comment ils ont pu être forts. Parce qu'on la pose jamais dans ce sens-là, cette question. Mais en réalité, malgré tous ces handicaps-là, les syndicats ont pu être forts.
Mais est-ce qu'ils n'étaient pas plus forts quand ils n'étaient pas éparpillés, Jean-Marie Pernaut ?
Bah, l'éparpillement existait, il ne date pas d'hier. Hein. Les concurrences entre FO, la CGT, la CFDT ont animé les années 50-60 avec une certaine vivacité. C'est là qu'il faut en venir sans doute un peu à des éléments qu'évoquait tout à l'heure Marie-Laure Dufresne Castette. C'est qu'il y a une dimension aussi de représentation qui n'est pas seulement à appréhender entreprise par entreprise. Les syndicats, pourquoi ils arrivaient à syndiquer, c'est parce qu'ils étaient sous-tendus par des espérances de transformation de la société. C'est ça la dimension effectivement sociétale et politique du syndicalisme. Elle a bien disparu. Des observateurs se sont beaucoup félicités dans les années 80 de voir les syndicats devenir enfin pragmatiques, se séparer de leurs grands horizons transformationnels, etc. Le résultat de ça, c'est que les gens n'ont plus de motivation réelle pour adhérer à un syndicat. Quand le syndicat il négocie, il négocie pas pour ses adhérents, il négocie pour tout le monde. Quand il obtient un avantage salarial ou même d'ailleurs une amélioration de service à l'entreprise, c'est pour l'ensemble des travailleurs, c'est pas pour ses seuls syndiqués. Donc ça a généralisé le comportement
être un passager clandestin,
de passager clandestin généralisé, oui, tout à fait, mais sur lequel il faut pas culpabiliser les salariés, d'autant que dans les entreprises en France, être syndiqué n'est pas un booster de carrière, même dans les syndicats modérés. C'est ça qui est, parce qu'on vous dira, ah, Solidaire, la CGT, on a des syndicats radicaux, mais attendez, il y en a aussi plein qui ne le sont pas. Et cela, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ne s'affichent pas syndicalistes parce que, quoi qu'on en dise, et malgré les beaux discours, c'est le fait syndical n'est pas facilement accepté par un grand nombre d'employeurs. Mais je pense fondamentalement, la question, c'est quelles perspectives, au-delà des problèmes du quotidien, sont données aux travailleurs qui leur donneraient une raison d'adhérer. Et aujourd'hui, sur les grands thèmes, enfin écoutez, la durée du travail, c'est quand même extraordinaire. Quand on est dans une société où le progrès technique est croissant, on nous annonce même avec l'intelligence artificielle des progrès de productivité considérables qui vont faire économiser du travail humain, et le compteur de la réduction de durée du travail, non seulement il n'est pas arrêté, mais on repart dans l'autre sens.
Alors même qu'en Allemagne, c'est une des revendications du syndicat IG Metall,
c'est aussi,
de passer à 4 jours par semaine.
C'est aussi une revendication qui émerge ici ou là, dans le regroupement syndical autour de la CGT, FSU, etc. On reparle de la réduction de la durée du travail. C'est pas... Puis la CFDT, elle est marquée historiquement par cette question-là, elle n'en parle plus. Et donc, voilà, il y a des thèmes fédérateurs qui pourraient redonner envie de faire du syndicalisme pour se remettre sur les rails d'un projet. Il se joue énormément de choses autour de la durée du travail. Hein. Et d'ailleurs, les règles dans le confinement, une des mesures de suspension d'un certain nombre d'encadrements de la durée du travail, c'est un enjeu décisif dans la sortie du confinement.
Il y a le terrain, et puis de l'autre côté de l'échelle, il y a aussi le rôle peut-être de l'exécutif. Lors de sa prise de fonction début juillet, Jean Castex avait déclaré « il faut dans ce pays prêter davantage d'attention au dialogue social ». Est-ce que l'exécutif pourrait redonner plus de place au syndicat, Stéphanie Matteudy? Est-ce que vous croyez à la méthode Castex, pour le dire autrement?
Pas vraiment. Le dialogue social, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est un peu le côté fourre-tout. Le dialogue social, pour moi, c'est les deux pouvoirs qui ont été consacrés par les lois de 1864 et 1884, qui sont les contester, le pouvoir de contestation et le pouvoir de négociation. Et donc on va jouer avec ces deux mécaniques. Alors là où je suis un peu moins d'accord avec Marie-Laure Dufresne-Castex, c'est sur l'endroit où on positionne la contestation avant la négociation. J'ai plutôt l'âme à être un peu dans la codécision et du coup à d'abord se mettre à la table de négociation, négocier, pas marchander, négocier, c'est-à-dire que on se met d'accord et il y a une disposition du code du travail qui est extrêmement importante et puis qui peut valoriser les syndicats, c'est le dispositif des formations communes. Ou à mon sens, il se pourrait que on ouvre un nouveau regard, on ouvre une nouvelle culture de la négociation où on va essayer de partager ensemble des solutions. Et du coup, on élargit le champ des experts, pas à la table des négos, hein. On va les former en amont. Et l'idée, c'est d'appuyer les négociations, de monter en compétence finalement les interlocuteurs de la négociation, et je pense que c'est extrêmement important, et qu'ils fassent un virage à 360. Parce que dire à un patron, tu vas te transformer en délégué syndical CGT le temps d'un jeu de rôle, ça peut peut-être ouvrir des nouvelles perspectives. Donc je pense qu'il faut désormais voir la négociation collective autrement.
Un dernier mot peut-être, Marie-Laure Dufresne-Castet, sur la méthode Castex ou sur les stratégies aujourd'hui qui s'offrent aux syndicats pour lutter contre la possibilité d'une explosion du chômage, dont je rappelle qu'il devrait atteindre 9,5% de la population d'ici à la fin de l'année.
On a compris que les méthodes de négociation telles qu'elles sont décrites n'ont pas porté leurs fruits, puisqu'on a sans cesse vu que cela ne combattait aucunement le chômage. Moi, je pense que la question fondamentale est celle de savoir s'il y a des intérêts communs, si l'entreprise, c'est une communauté. Si dans l'entreprise, les directions et les salariés ont les mêmes intérêts. Non. Ils ont des intérêts qui sont opposés. Les uns sont là pour faire travailler les autres, les uns dominent et les autres sont subordonnés. Et cette histoire de formation commune, mais c'est une vaste plaisanterie. Parce que cela signifierait que les salariés et les patrons ont les mêmes intérêts. Non, ils n'ont pas les mêmes. Il y a les propriétaires et il y a les producteurs. Et ça, ça n'a pas changé.
Eh bien, on finira sur ce mot. Un grand merci à tous les trois, Jean-Marie Pernaud, Marie-Laure Dufresne-Castet et Stéphanie Matteudy, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Marie-Laure Dufresne-Castet, je rappelle votre ouvrage « Un monde à gagner, la lutte des classes au tribunal » paru en 2017 aux éditions Don Quichotte. Jean-Marie Pernaud, syndicat lendemain de crise, point d'interrogation. C'était chez Gallimard il y a quelques années. Et à noter votre ouvrage à paraître, Stéphanie Matteudy, « Dialogue social et crise, quelle place pour les syndicats ?» Demain, on mettra toutes les références sur la page de l'émission. Et tout de suite, c'est l'heure de la bibliothèque de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Dans son dernier ouvrage, GAFA, reprenons le pouvoir, publié chez Odile Jacob, l'économiste Joël Toledano se penche sur les stratégies des géants du numérique pour échapper aux régulations. Sur quoi repose leur puissance? Ses explications au micro de Marguerite Caton.
C'est des mondes de richesse, mais je crois qu'il faut pas s'arrêter à l'aspect boursier qui va et qui vient. Ce sont effectivement des entreprises qui se sont installées dans un certain nombre d'activités et qui progressivement irriguent l'ensemble de l'économie en la contrôlant indépendamment de leur pouvoir instantané. Et donc ce sont devenus sur leur écosystème, sur les entreprises qui en font partie, par exemple les commerçants d'Amazon, par exemple les entreprises qui font de la publicité sur Google, ils sont régulés par ces entreprises qui fixent les règles, qui les modifient. Et c'est par-delà la puissance économique et financière, cette puissance quasiment politique, qui pose en plus problème.
D'un point de vue strictement économique, quelles sont les recettes de ce succès?
C'est d'abord des exemples types de ce qu'on apprend sur l'économie numérique et la façon dont l'économie numérique se développe, avec cette fameuse phrase qui est très utilisée du gagnant qui ramasse la mise. Donc on est dans des mondes bâtis sur des économies d'échelle, sur ce qu'on appelle les effets de réseau, qui font qu'à un moment donné, où vous arrivez à prendre le marché, et à ce moment-là, vous avez une très forte probabilité de le maîtriser complètement, ou si vous n'y arrivez pas, vous risquez de rester petit, voire de mourir. Donc, ça c'est la base, si je puis dire, de l'économie numérique, un petit peu racontée simplement. Là-dessus, ce développement économique, a priori, vous pourriez me dire, ok, mais il y en a un qui fait ça, et puis il y en a un autre qui arrive, qui est encore plus malin que le précédent.
Et tout serait bénéfique pour l'ensemble de l'économie.
Donc, tout va bien. Simplement, comme ils ont appris ce qui était arrivé à leurs prédécesseurs et comment ils avaient pris le pouvoir, ils se sont... Leur politique a consisté à verrouiller les marchés progressivement avec différentes stratégies qui vont de politiques d'acquisition extrêmement importantes.
Ça, c'est Facebook avec Instagram, Twitter.
C'est Facebook, mais c'est Google, mais c'est Amazon, c'est Apple, c'est tous. Ils ont, si vous regardez sur 15 ans, il y a eu une acquisition tous les 10 jours, quoi. Donc, vous êtes dans des ordres de grandeur qui sont très au-delà de ce à quoi on était accoutumé. Donc, type de stratégie, donc par les acquisitions, par effectivement ce que ça peut vouloir dire pour le reste des acteurs du marché quand il y a cette politique d'acquisition autour. On dit qu'il y a des zones qui sont devenues des zones tueuses, des zones où il vaut mieux pas être parce que il y a un risque de mourir si on reste là-dedans. Vous avez d'autres stratégies qui consistent également à progressivement, enfin, à favoriser certains services par rapport à d'autres et progressivement faire émerger des nouvelles positions dominantes sur des marchés adjacents, soit avec vos alliés, soit vous-même. C'est ce que, quand on regarde ce qu'est en train de faire Apple, après avoir, d'une certaine façon, aidé au développement de Spotify, il s'est dit que c'était quand même mieux de le bouffer.
Spotify tremble en ce moment.
Voilà. Donc, toutes ces stratégies, alors vous avez, qui consistent à s'étendre progressivement, à avoir des mailles de plus en plus serrées et de plus en plus larges, un peu en tache d'huile, et Google a fait ça, Facebook a fait ça, avec les acquisitions, mais aussi avec toute une série d'autres activités, et Amazon, évidemment, a fait ça aussi. Donc, chaque fois, progressivement, il y a des écosystèmes qui se créent, bien en apparence bien ouverts au début, puis qui se referment et qui continuent à croître et à se développer.
Au-delà du risque économique, quelles menaces politiques ? Il faut distinguer, j'imagine, les réseaux sociaux des spécialistes du commerce en ligne.
Il faut regarder en réalité, je vous ai dit que c'était des mondes à chaque fois, il faut regarder chaque monde, comment, au fond, quelle est sa dynamique de développement et quelle est son influence? Quels sont les endroits où il intervient? On a beaucoup parlé, et on a raison, de parler de la puissance que peuvent avoir Google et Facebook dans tout le domaine de l'information, voire de la manipulation de l'information via les réseaux sociaux, via ce qui est mis en avant, les pratiques virales, etc., etc.
Les risques politiques lors des élections sont bien connus.
Voilà. Mais quand vous regardez Amazon, vous avez d'autres types de risques qui apparaissent par une restructuration de l'ensemble des activités de commerce, avec ce que ça peut vouloir dire, qui repose sur une qualité de service incontestable, qui utilise des pratiques dont on peut se demander dans quelle mesure elles sont ou non anticoncurrentielles. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est incroyablement difficile de lutter contre Amazon Prime. Une fois que vous êtes client privilégié d'Amazon, vous allez rester là, vous allez de plus en plus utiliser Amazon et donc vous allez favoriser cette croissance, la croissance éventuelle des activités connexes qui se développent et puis tout ce qui peut se passer autour qui va avoir comme conséquence qui est responsable des biens qui sont vendus sur Amazon, tout le sujet de la responsabilité, qui là encore concerne toutes nos sociétés. On se retrouve avec des acteurs qui à la fois vendent de tout, mais c'est sur des lois qui sont telles qu'aujourd'hui, la responsabilité est peu engagée pour employer une litote.
Un produit défectueux, la plateforme n'est pas responsable vis-à-vis de son client, enfin du consommateur.
Vis-à-vis du consommateur, quand vous avez des produits qui sont copiés, là encore, se met en place une sorte de justice privée qui est assez exceptionnelle. Hein. Amazon propose que celui qui se plaint et celui qui serait le copieur se mettre au milieu, de créer la médiation. Mais c'est quand même extraordinaire. Tout ça devient des mondes qui sortent du droit commun. C'est plus la loi française, européenne, etc. Et ça, c'est un vrai sujet démocratique. En plus, c'est intermédié souvent par des algorithmes. Et donc, ça renforce l'opacité comme si les algorithmes étaient quelque chose qui sortait de nulle part. Bref.
Le temps de la naïveté est passé.
Oui.
C'est le temps de la régulation, du coup. Alors pour vous, ce ne sont pas les États-Unis qui s'en chargeront, ni la Chine, ni les organisations multilatérales. C'est à l'Europe d'agir, Joël Toledano. celle qui pâtit le plus de l'hypertrophie des GAFA?
C'est-à-dire, je pense que chacun, les États-Unis, la Chine, chacun agit ou va agir en fonction de ses intérêts. Je crois qu'effectivement, les Américains, après les élections, auront peut-être, probablement, un certain nombre d'évolutions. Mais il ne faut pas compter que ces évolutions aillent dans le sens de nos intérêts. Ça ira dans le sens de leurs intérêts, de leurs préoccupations. Ils ne sont pas au même endroit que nous. Donc c'est à nous, effectivement, d'agir pour mettre en place des règles qui correspondent à notre monde, qui est l'Europe, avec ses lois, ses principes, sa culture.
Quelles sont nos armes ?
Le droit. Le droit qu'il s'agit de mettre en place.
Le droit de la concurrence, parlons-en. Vous dites que ce n'est pas suffisant comme outil de régulation ?
Non, enfin, s'il fallait une preuve par l'absurde, si c'était suffisant, ça se saurait. Donc, effectivement, il y a des projets de le réformer, tant mieux, mais rien qui permette de résoudre ce problème, qui est un peu aujourd'hui l'éléphant dans la pièce, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que se sont créés un certain nombre de mammouths très puissants. Et donc, il faut mettre en place les outils dont on a déjà l'habitude, qu'on a pratiqués, qui sont des outils de régulation, on appelle ça en jargon ex ante, c'est-à-dire on fixe des règles que doivent respecter les acteurs pour qu'à la fois, ils n'abusent pas de leur pouvoir, d'une part, et deuxièmement, pour qu'on puisse avoir une concurrence qui se développe vraiment, parce que maintenant, elle est, sur un certain nombre de secteurs, complètement annihilée.
Mais comment on vérifie et comment on dote de telles armes de suffisamment de puissance ?
Eh bien, écoutez, on met en place les outils de l'intelligence. On est dans le siècle de l'intelligence. Ces entreprises sont des entreprises qui ont utilisé ces moyens. Mais nous, pour l'instant, on a regardé croître. On a commencé à s'en rendre compte et à se plaindre. Mais pour l'instant, il y a extrêmement peu d'outils d'observation technique qui vont chercher à effectivement nous sortir de l'obscurité dans laquelle on est.
Et on peut aussi se servir de notre savoir-faire européen en matière de régulation de la concurrence. Vous parlez des industries de réseau du XXe siècle, les télécommunications, les chemins de fer, l'électricité. Tout ça, on a ouvert de force certains marchés pour les rendre concurrentiels. En quoi ça peut nous être utile, cette expérience ?
On a appris qu'il faut avoir des équipes dédiées, des équipes compétentes qui travaillent sur les sujets.
Au niveau de la Commission européenne ?
Au niveau de l'Europe ? Pas forcément au niveau de la Commission européenne, un régulateur indépendant qui serait effectivement dans une orbite européenne, qui aurait des attaches au niveau national, parce que chaque fois ces acteurs ont des pratiques nationales et qu'il faut absolument que les deux se parlent.
Il faut coordonner les CNIL.
Un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la coordination des CNIL, ça s'arrête en Irlande. Hein. Et ça se bloque. Donc il faut faire beaucoup mieux, si je puis dire, que ce qui se passe aujourd'hui en matière de régulation et de coordination en matière de données personnelles. Plus vite et plus efficace.
Très bien, je vous remercie beaucoup Joël Toledano. Votre ouvrage GAFA, reprenons le pouvoir, est publié aux éditions Odile Jacob. You ran away to find something to say. I went straight to make it okay. I'm still in love and I say that because I know how it seems between you and me. It hasn't been easy, darling. I can't even look at you. Would you look at the space just next to your feet? The wood is warping. The lines distorted.
C'est la fin de cette émission. On se quitte avec Easy, le dernier titre de Troy Sivan. Demain, premier épisode de notre série consacrée à l'économie de la colonisation. L'historien Jean-François Klein nous dira tout sur la perle de l'Empire, l'Indochine. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast sur l'excellente application Radio France et venir nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. What's left of the dance, the smell on my hands, the rock in my throat, a hair on my coat, a stranger at home, my darling.